aux jeunes frères et sœurs qui sillonnent la ville d'Antony et le font avec d'autres frères et sœurs, comme cela a été dit tout à l'heure par Alex. Et de témoignages, nous en aurons encore bientôt, et je sais que vous vous en réjouirez, puisque d'ici 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, moi il est calendrier, hein, vous savez, je fais pas mal d'erreurs, mais avrions dans 15 jours normalement, et dans les cultes qui vont suivre, nous aurons des témoignages de ces jeunes frères et sœurs qui viendront bientôt à s'engager par les eaux du baptême. Et dans les cultes qui précéderont ce culte de baptême qui se profile, nous aurons l'occasion d'entendre au moins 9 témoignages. Donc réjouissons-nous de ce que Dieu a fait déjà et nous aurons le profit de pouvoir louer Dieu, glorifier Dieu dans ce qu'il a déjà accompli dans la vie de chacun d'eux et que nous pourrons entendre bientôt. Voilà. Avant de venir à partager maintenant sur un court texte, deux courts textes, mais un principal de la parole, qui sera d'ailleurs une parabole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Je vous donnerai la référence juste un peu après. J'aimerais tout d'abord, comme à mon habitude, vous poser une question. Oula, il y a une espèce de réverb, si ça peut être enlevé. Avez-vous déjà expérimenté l'absence de votre supérieur ou de votre chef à votre travail pendant une assez longue période? Voilà. Ne me dites pas quoi encore pour l'instant, mais on en reparle tout à l'heure, si vous voulez. Ou inversement, si peut-être vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ou plutôt si vous êtes de ces chefs, de ces supérieurs, avez-vous fait l'expérience de vous absenter longuement en tant que cadre et de laisser vos subalternes, il n'y a rien là de péjoratif, sans grandes instructions tout au long de cette longue période? Je vous laisse à réfléchir si vous avez vécu ça, ou alors peut-être de l'appliquer à quelque chose de plus abordable, de plus accessible, parce que nous l'avons tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et cela de regarder au cadre familial, avez-vous fait déjà l'expérience de laisser vos enfants, plus ou moins jeunes, laissés à eux-mêmes pendant ou quelques minutes, parfois il suffit de cela, ça dépend de l'âge, parfois même quelques heures, ou alors pourquoi pas quelques jours, voire semaines. Bon, là, en général, ils sont un peu plus âgés. Ou si vous étiez encore enfant et que vous ne l'avez vécu que sous cet angle-là, rappelez-vous de ce que vous avez pu vivre dans ces temps-là, même si ça n'était que quelques minutes. En bref, il est fort probable que vous veniez à vérifier, en fonction des expériences, des illustrations qui vous viennent, à vérifier un célèbre adage qui dit « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. » Voilà, vous le connaissez. Mais venons-en au questionnement que je me pose. J'ai voulu l'illustrer un petit peu ainsi, d'abord, pour chacun de nous aujourd'hui, et là où le faisceau de questions que je me pose, pour chacun d'entre nous, et même pour nous tous en tant que communauté, peut-être même par rapport aux questionnements qui sont là un peu pour nous aujourd'hui et pour demain. Comment vivre au quotidien la réalité de cette vie de disciple, d'enfant de Dieu, si nous ne sommes pas sûrs d'entendre Dieu dans ce même quotidien? Comment avancer dans la vie chrétienne en sachant où poser pas après pas, tout en étant sûr de le faire dans la suite des pas de notre Seigneur? Ou pour le résumer et de le faire encore plus simplement, comment aujourd'hui, dans mon quotidien, je peux entendre la voix de Dieu qui me guide? Je pense que c'est une question que certainement beaucoup se posent, ne serait-ce qu'aujourd'hui, et certainement demain. Peut-être parce que cela ne nous est pas toujours évident. Alors, je ne vais pas tout esquisser, tout vous dire, sinon on sera encore là demain matin. À chaque fois, je vous fais ce genre de promesses, mais je n'y tiens pas, heureusement, pour vous, pour moi aussi. Mais déjà de regarder juste à quelques petites choses. Et nous aurons peut-être l'occasion plus tard de repartager autour de quelque chose de proche. Il y a un livre d'ailleurs que je pourrais vous suggérer, que j'ai trouvé très enrichissant, mais je ne vais pas en faire la pub maintenant, car nous avons besoin d'abord d'aller regarder à sa parole. Et j'aimerais vous inviter à ce moment-là d'aller regarder donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, et nous allons aller lire là 3-4 versets, ce seront les versets 7 à 10. Donc Luc chapitre 17, et je crois que Philippe avait préparé aussi de quoi afficher le texte. C'est toi qui le fais, hein, c'est ça? Donc Luc chapitre 17, à partir du verset 7, et nous irons nous arrêter au verset 10 inclus. Et tout à l'heure, un peu plus tard, nous irons regarder un très court texte là aussi, mais dans un autre évangile, pour continuer d'apporter une illustration. Alors, voilà. Écoutons. J'attends juste que ça soit à peu près synchro. Tu es prêt, Philippe? C'est bon? Tu sais pas? Alors, on va lire, et puis on espère que l'affichage, pour ceux qui préfèrent regarder sur le mur, sera là en même temps. Écoutons sa parole. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table ». Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie fini de manger et boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour ». Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Alors, je vais aller regarder un tout petit peu en arrière-plan parce que, aux premières vues, la première chose que met en lumière cette courte parabole du Seigneur est que tout disciple que nous sommes, nous ne le servons pas ni ne lui obéissons dans l'optique d'obtenir quelque chose de sa part. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas ses enfants dans ce but-là. Ou pour le dire être autrement, je me permets une expression peut-être déplaisante, mais elle vaut ce qu'elle vaut, être disciple de Jésus n'est surtout pas être le faillot de Dieu. Quand on a été à l'école, on a certainement soit été, soit vu des faillots. Ceux qui constamment lèvent la main, aiment à dire des choses. Alors parfois, c'est parce qu'ils n'ont pas tort, et puis ils savent les choses, mais ils aiment bien se faire voir et espèrent en retour quelque chose. Laissons cet aspect-là, cette première lecture que nous pouvons avoir de cette parabole, de l'enseignement du Christ. Mettons-le de côté et venons-en à un autre aspect qui apparaît tel que moi je l'ai vu, je l'espère ne pas me tromper, en arrière-plan dans cette parabole. Qu'en est-il du serviteur et de sa relation à son maître ? J'aimerais me poser d'abord cette question-là par rapport à cette parabole. Comment nous pouvons d'ailleurs définir cette relation telle que souhaitée, telle que cherche à montrer un petit peu cette parabole, la relation qu'il doit y avoir entre le serviteur et son maître ? Dans la perspective que le Christ ici nous enseigne, nous comprenons que l'obéissance attendue du serviteur est naturelle. Elle devrait découler de source, pour le dire encore. Elle tombe sous le sens. Nul besoin au maître de venir lui rabâcher ses attentes. Je crois que c'est ce que nous entendons par derrière. Oui, normalement, le maître n'est pas là pour venir à chaque fois rappeler à son serviteur son rôle et sa charge de serviteur. Et je me permets même d'aller un tout petit peu plus loin que ce que Jésus dit au verset 8, où il semble indiquer que le maître doit expliquer à son serviteur ce qu'il attend de lui une fois le travail au champ fini. Non, l'attente du maître ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Car demandons-nous comment un maître tel celui de cette parabole est censé diriger son serviteur dans le contexte que Christ nous propose. Doit-il à chaque fois, pour son serviteur, pour ses serviteurs, et pour chaque tâche, de venir lui dire, de venir leur dire ce qu'ils doivent accomplir à ce moment-là. Fais ceci, va faire cela, rends-toi ici. Bien sûr que non. Dès lors que le serviteur connaît son maître, il y aurait d'autres paraboles qui illustrent un petit peu parfois la proximité que le serviteur peut avoir, mais dès lors qu'il a commencé à travailler pour lui, il vient à connaître ses habitudes, il vient à connaître ses attentes, et c'est normalement où se trouver, où œuvrer dans le projet et les responsabilités que le maître lui a confiées. Si ça n'était pas le cas, et imaginons le serviteur qui ne cherche même pas à savoir ce que le maître attend de lui, je ne sais pas si ça peut exister beaucoup, si le serviteur en a oublié de se laisser former, de passer par tout ce temps d'apprentissage, alors son maître, voyant ce serviteur-là, ne peut qu'à chaque moment qui rythme sa journée de travail, devrait constamment être sur son dos. Il devrait lui répéter sans cesse toute chose. Et dans cette situation peu enviable d'une relation entre maître et serviteur, nous pourrions la qualifier, dans cette relation, de profondément immature. D'un serviteur qui ne connaît pas son maître, qui ne sait jamais comment il peut agir, comment il peut se comporter, où il se doit d'être à tout moment. avec même le risque, si nous restons dans ce cas de figure, que le maître se défasse à un moment de son serviteur, car il n'y aura jamais eu cette relation minimum, on va dire, de confiance qui serait établie entre l'un et l'autre. Il n'y aurait même pas, de toute façon, de relation de serviteur à maître. Mais allons un peu encore au-delà de la notion de serviteur méritant, celle qui est évoquée un tout petit peu dans cette parabole, et parlons plutôt du bon serviteur. Qui est-il vraiment ? Le bon serviteur, tel qu'on le voit se dessiner entre les lignes de cette parabole, est celui qui connaît, voire même devine les intentions et les pensées de son maître. Et s'il en est arrivé à ce stade de maturité, c'est tout simplement parce qu'il connaît profondément son maître. Et déjà là, nous nous éloignons du serviteur sans mérite de la parabole, de ce serviteur qui fait seulement ce qu'on lui commande de faire. Pourquoi sans mérite ? Car le serviteur sans mérite est certainement à l'image un peu d'un enfant immature à qui il faut préciser toute chose. Alors pour les enfants, ils sont en voie de grandir, donc nous espérons les voir après petit à petit, prendre de l'autonomie, savoir aussi ce que l'on attend d'eux et de savoir y répondre par eux-mêmes. Mais quand on regarde aux petits-enfants, il nous arrive assez facilement de leur dire « mets tes chaussettes, habille-toi, dépêche-toi, va te laver les dents ». Bon bref, c'est quelque chose que je vis encore. Mais le serviteur peut être de cela s'il n'a pas cherché à connaître son maître. À l'inverse, le bon serviteur, celui que le maître désire voir à l'œuvre, est celui qui voit ce qui doit être fait, et le fait même simplement. Ne le fait pas pour se faire, je vais me permettre encore d'autres expressions, mais pour se faire mousser, ou pour paraître un peu le bon faillot face à tous les autres serviteurs peut-être que le maître aurait. Non, il sait, il voit, il connaît, et il fait simplement. Aussi, peut-être maintenant, prenons un tout petit peu de recul avec notre parabole pour en voir sa pertinence plus encore pour nous aujourd'hui. Peut-être vous voyez déjà vers quoi je tends. Mais je vois en cette parabole, en plus de ce message fort et premier qui nous invite surtout à ne pas être les faillots de Dieu, une invitation joyeuse à s'approcher de Dieu, afin de le connaître dans ses pensées, de le connaître dans ses intentions pour nous, et pas juste pour moi, hein. Pour nous ainsi que pour moi, et d'en devenir si proche que nous n'aurons plus besoin d'attendre une parole forte de sa part à tout moment. Être disciple de Jésus au quotidien, et je dis bien au quotidien, relève de cette réalité plus qu'on ne l'imagine. Devenir son disciple est une invitation à le connaître suffisamment pour ne plus être dans l'attente constante d'une parole de sa part pour savoir ce que je dois faire aujourd'hui, quel choix je dois avoir. Et notez bien une chose, j'ai bien parlé d'une attente constante. Car bien sûr, rien n'empêche à Dieu de vouloir nous interpeller aussi par des moyens parfois plus manifestes, plus visibles, pour nous conduire toujours sur son chemin. Et il l'a eu fait avec ses serviteurs. Et je pense à Paul, qui dans le livre des Actes, très souvent, savait où, quelque part, Dieu voulait l'emmener. Et il faisait ses voyages missionnaires. Mais il y a eu un moment aussi où Paul souhaitait aller plus vers le sud de l'Asie mineure et quelque chose s'est opposé à cette entreprise. Ils ont dû attendre. Et puis, il souhaitait aller juste un tout petit peu à côté de là où il le projetait. Et là, à nouveau, quelque chose s'oppose à ça. Et puis vient ce moment où Dieu, là, tout d'un coup, l'interpelle autrement que dans cette relation d'intimité, où il reçoit cette vision d'une personne en Macédoine qui l'interpelle et lui demande de venir. Et Paul, alors, comprend que là, tout d'un coup, Dieu lui fait entendre « Je vais te diriger et je vais te le montrer plus explicitement, même si jusqu'ici, tu as toujours su où je voulais t'emmener, d'une certaine manière. » Aussi, Dieu, voilà, peut nous interpeller autrement, mais ce n'est pas la voie première par laquelle il veut être en dialogue avec nous, par laquelle il désire que nous l'entendions. Le plus souvent, Dieu se fait connaître à ses disciples telle cette relation entre le maître et son bon disciple, qui le connaît si intimement qu'il ne lui est plus nécessaire d'attendre la voix du maître le reprendre pour savoir où aller ou que faire. Oui, oui, c'est dans l'intimité de cette relation avec notre maître que nous pouvons entendre sa voix au quotidien. Et je dis bien au quotidien. Peut-être deux petites illustrations. Je pense, je ne vais pas aller lire ce passage, il est bien trop long, mais vous connaissez un peu l'histoire d'Élie pour beaucoup, si ce n'est tous. Et Élie, après sa victoire au Mont Carmel, la victoire de Dieu au Mont Carmel, mais que lui a vue avec brio, et a été le premier des serviteurs, a fui au désert, suite à cette parole de Jézabel contre lui. Il fuit et se retrouve enfin sur le mont Horeb, qui n'est que le Sinaï aussi. Et Dieu va lui montrer où il vient à s'exprimer pour lui. Il l'a eu déjà fait, et Élie a été peut-être l'un des plus grands témoins de l'œuvre de Dieu au sein de son peuple. Et pour autant, Dieu tout d'un coup se fait entendre dans quelque chose qui s'apparente à ceci. Voilà, vous l'avez compris. Dans ce murmure, bon là nous avons les ventilateurs, mais même le ventilateur est presque trop bruyant à côté de ce que Dieu voulait dire à Élie. Que Dieu est présent dans sa vie, que Dieu lui parle aussi dans son intimité, et puis après il va le restaurer, le reconduire et lui donner aussi certaines promesses. Mais lui dire à côté aussi, tu n'es pas seul, parce qu'il croyait être le seul, il n'entendait que ses propres inquiétudes. Et plus encore peut-être, autour de vous, si vous n'êtes pas persuadé que Dieu veut et vous parle au quotidien, si vous venez le rejoindre dans son intimité, regardez aux personnes autour de vous, ceux que vous avez pu croiser, connaître, et dont vous savez qu'ils ont une vie riche avec Dieu. Des personnes dont vous savez, dont la foi a été bénie et remplie par Dieu. Ce sont des personnes qui, quelque part, avancent avec Dieu au quotidien, parce qu'ils le connaissent intimement. Ces personnes-là, très souvent, étaient des personnes, d'ailleurs, qui nous ont inconsciemment, implicitement, poussés à nous approcher de Dieu, parce qu'ils ont été ces témoins de l'œuvre de Dieu en eux. Je pense que nous en avons certainement pour beaucoup, si ce n'est tous, croisés et vus. Et il y en a certainement ici parmi nous. Oui. Aussi, je crois que Dieu continue de prendre patience avec nous, aujourd'hui encore, car il nous attend. Il attend que nous venions à le rejoindre, que nous venions à chérir, je vais employer un autre type de langage, à chérir les temps intimes que nous sommes invités à passer avec lui et ainsi de mieux le connaître. Oui, nous pourrions dire chérir ces temps-là. Il attend, il nous attend. Un peu tel l'époux qui attend son épouse pour passer du temps avec elle. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que la Bible ait choisi de parler de sa relation entre lui et son peuple, soit en termes de maître et de serviteur, soit en termes d'époux vis-à-vis de son épouse. Parce qu'il y a cette relation que Dieu recherche avec nous. Il nous y invite. Et j'aimerais encore prendre un autre exemple, très court là encore. Et dites-moi, alors là c'est plus une anecdote, hein, laquelle des deux illustrations que je vais vous présenter forme l'amitié la plus grande, la plus profonde et la plus intime ? C'est tiré d'un livre américain dont j'ai trouvé l'extrait dans un autre livre écrit d'un auteur américain. Bon, bref, je n'ai pas les références, donc ça ne vous avance pas grand-chose, je l'avoue. Écoutez un peu cette anecdote. Un jour, on va l'appliquer à chacun d'entre nous, votre ami vous appelle au téléphone et vous annonce que son père est très malade. Or, le père de cet ami habite dans une région reculée, la Creuse, par exemple, si on le met dans un contexte plus ou moins français, peu accessible d'ailleurs par les transports en commun. Je ne sais pas s'il y a pire, hein. Je ne connais pas assez. S'y rendre rapidement et facilement nécessite plutôt la voiture, voire la voiture. Et notre ami, cet ami qui vient de nous appeler, n'a pas, lui, de voiture. C'est assez fréquent dans la région comme ici. Et apprenant cette situation et la situation de son père, et connaissant bien votre ami, vous pourriez avoir deux réactions différentes et possibles. Première réaction, premier cas, pendant qu'il vous parle au téléphone, vous comprenez l'enjeu pour votre ami, mais vous attendez que lui vienne à formaliser sa demande auprès de vous pour que vous lui laissiez votre voiture. Parce que coup de bol, vous en avez une. Deuxième possibilité, deuxième réaction. Alors que vous êtes toujours au téléphone, vous l'écoutez, et vous lui faites entendre sans même qu'il ne vous le demande que vous souhaitiez lui laisser votre voiture afin qu'il puisse lui se rendre au plus vite au chevet de son père souffrant, parce que nous savons que c'est ce qu'il veut faire. Alors, bien sûr, je vous donne deux situations, mais les deux sont justes. Entre amis, nous voulons l'aider. Mais de vous demander laquelle de ces deux réactions possibles trahit une amitié plus grande, plus intime, plus profonde, qui sait anticiper ce que mon ami désire de moi. Et pourquoi il m'appelle ? Peut-être déjà pour que je l'entende, mais peut-être il attend de moi aussi que je vienne à son secours, plutôt que, vas-y, dis-le-moi. Comme ça, je te montrerai que c'est moi qui... Non, j'exagère, hein. Il n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais il peut en être ainsi de notre relation à Dieu. Sommes-nous dans l'attente de signes forts au quotidien, et je reste bien sur l'idée du quotidien, je n'empêche pas que Dieu puisse le faire à tout moment pour chacun d'entre nous. Sommes-nous dans l'attente d'un besoin d'évaluer ou d'entendre ce que Dieu veut dans toute situation de ma vie ? Et si c'est le cas, alors il est assez probable que nous ayons encore du chemin à parcourir pour goûter davantage à l'intimité de Dieu. Si je crois qu'à chaque fois je dois entendre une parole forte, c'est que quelque part je suis un peu à l'image de l'enfant qui refuse de faire ce que Dieu aimerait me voir faire, tel le petit enfant à qui il faut tout dire et tout répéter encore parce que nous sommes bien immatures. Prenons cette autre illustration que je vous avais promise et qui se trouve cette fois-ci dans l'évangile de Marc. Donc, là, je pense que Philippe va nous afficher le texte et nous allons la lire ensemble aussi. Et de vous montrer là un autre récit, c'est plus une parabole, un récit où Jésus a affaire justement à plusieurs de ses contemporains et on voit que certains sont loin, loin d'être dans une relation parfaite avec Dieu. Alors, écoutons, c'est un récit, je pense, assez connu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit même de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» La question est plus large que la situation vécue. Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il attendit et elle fut guérie. Alors pourquoi avoir pris encore cet autre récit biblique pour illustrer peut-être ce à quoi je veux vous exhorter, ce à quoi je nous exhorte tous d'ailleurs. Dans ce jour de sabbat, Jésus questionne les fidèles à la synagogue. Je reprends plus ou moins la question qu'il pose, ou les questions qu'il pose. Peut-on faire du bien le jour du sabbat ? Il le dit aussi par la négative, mais on entend la question. Ou l'autre variante, a-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ? Bon, il n'est pas question que la personne soit en danger de mort, mais on comprend le sens de la question. Et regardez plutôt à la réponse des fidèles présents à la synagogue. On connaît leur intention, mais regardez même juste à leur réponse. Cette réponse d'ailleurs qui reçoit le regard indigné du Christ. Cette réponse se résume en un mot, le silence. Et ce silence en dit long, beaucoup trop même. Bien qu'ils soient dans la volonté de piéger Jésus, ils ne savent pas quoi répondre car leur relation avec Dieu est en piteux état. Et pourtant, ils sont persuadés d'être en bonne relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils essayent de piéger Jésus, parce que lui est en train de perturber un peu tout ce qu'ils pensent bon à propos de Dieu. Leur relation avec Dieu est à l'image de, je me permets une illustration là encore, de celle d'un fan d'une star quelconque. Je ne sais pas si vous avez autrefois, peut-être, était fan d'un chanteur, d'une chanteuse, d'une rockstar, d'un footballeur. Ah, peut-être que là, je touche un sujet sensible. Bon, bref, laissons tomber les possibilités. Mais pour ces fidèles à la synagogue, qui n'ont pas su répondre et qui sont restés dans le silence, ils sont pour moi un peu à l'image de celle d'un fan d'une star quelconque qu'il ne connaît son idole que par la voix de la presse, par les médias, et ainsi croit, à propos de cette star, savoir beaucoup de choses sur elle, de bien la connaître. Même parfois, pourquoi pas, les détails un peu truculents, là, parce qu'il y a des magazines qui ne s'intéressent qu'à ça. Mais pour autant, ce fan ne l'a jamais rencontré, cette star, son idole. Et encore moins, il ne lui a parlé pour véritablement commencer à la connaître. Parce que ce qu'il ne voit que par les médias, c'est ce que les médias veulent bien lui dire. Ou ce que les médias ont envie de montrer. Ce fan-là ne connaît certainement pas, en fait, celui qui est son idole. Il n'en connaît qu'une facette qui, d'ailleurs, est peut-être fabriquée de toutes pièces. Parce que parfois, même entre aujourd'hui, en tout cas, entre médias et fans, et stars plutôt, il y a parfois volonté de montrer certains aspects de leur vie qui sont d'ailleurs bidons. Juste pour faire un petit peu parler d'eux et puis augmenter les ventes parfois de certaines choses ou les amener à les faire passer pour je ne sais qui, parce que cela est plus vendeur. Alors bien sûr, ça n'est pas tout à fait cet aspect-là parfois que nous pourrions avoir, mais ici, ces fidèles dans la synagogue croient connaître Dieu. Mais la manière dont ils viennent à le connaître est complètement erronée, où ils sont mal informés, parce qu'ils n'ont pas cherché à aller à la rencontre de ce Dieu-là. Alors certes, peut-être, en ce temps-là, le voile était là encore, mais ça n'empêche pas que Dieu a toujours voulu se révéler à eux. Il leur a envoyé maintes fois des prophètes pour leur rappeler qui il est, leur rappeler ce qu'il attend d'eux, à quel point il les désire, et qu'il leur demande simplement de revenir à eux. Et pour autant, ici, ce jour-là, Jésus, face à ces gens-là, dans la synagogue, en ce jour de sabbat, il ne savait tout bonnement pas ce que Dieu voulait. Et pourtant, la question était quand même a priori assez simple. Dieu voulait-il que l'on respecte scrupuleusement ce jour de sabbat? Ou voulait-il que l'on aime ce prochain paralytique, quitte à en perturber nos propres habitudes sabbatiques? Que ces fidèles de la synagogue se posent simplement même la question et y réfléchissent, d'ailleurs trahissaient leur méconnaissance profonde de Dieu. Leur religiosité, si vous préférez. Mais à côté d'eux, et je vais finir sur cette note-là, à côté d'eux, il y avait un homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce jour-là, dans cette synagogue, il y avait un homme. Un homme qui avait tout bon. Qui lui savait. Jésus. Qui savait ce que Dieu voulait accomplir, parce qu'il était en étroite relation avec le Père, au quotidien. Alors là, bien sûr, si je vous dis, ben voilà la solution, vous avez l'exemple, c'est Jésus. Lui, il est tout le temps en bonne relation, il sait exactement ce que le Père veut à tout moment. Il voulait que cet homme-là voie sa main guérie. Vous pourriez me dire, maintenant, mais pasteur, tu exagères, parce que Jésus, c'est pas juste un homme. Et on n'a pas la chance d'être comme lui. Il était pleinement homme, oui, mais il était aussi pleinement Dieu. Ah ! Comment faire ? Je reste encore sur lui. Bien qu'il était pleinement Dieu, il a toujours été pleinement homme, et il n'a jamais cessé d'être dans l'intimité du Père et de l'Esprit-Saint. Car tous trois, d'ailleurs, ne font qu'un de toute éternité. Ce que, d'ailleurs, nous évoquons dans ce terme théologique de Trinité. Il est à la fois trois personnes et ne fait qu'un. Parce qu'ils sont dans cette intimité que nous ne pouvons comprendre complètement, qui dit que Dieu est un, sa volonté est une. Alors bien sûr, vous pouvez me reprocher cela, de prendre juste Jésus comme seul exemple en disant, voyez, faites comme lui, et vous aurez tout réussi. Mais bien que nous ne soyons pas Christ, et qu'aujourd'hui nous ne pouvons goûter à l'intimité que Christ a vécue dans le temps où il fut homme parmi les hommes, n'en oublions pas ceci. Jésus, en se faisant homme, en venant parmi nous, il a ouvert et installé le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Et ça, c'est une réalité. Une réalité qui a commencé, qui était déjà présente au jour de ce sabbat, où il faisait face à ces gens incrédules. De ce Jésus qui a ouvert le royaume de Dieu et qui est aussi décrit comme le nouvel Adam. Jésus, lui, a marqué notre espérance, car en tant que nouvel Adam, qui a fait alliance avec le Père pour nous, il nous met au bénéfice, non pas seulement du salut, mais de bien plus encore. Parce que bien trop souvent, même si je vous l'ai dit pour autre chose, nous nous arrêtons seulement au salut. Le salut n'est qu'une forme de porte d'entrée, si je me le permets ainsi. Christ, en ouvrant son royaume, en étant ce nouvel Adam qui a fait alliance avec le Père pour chacun d'entre nous, nous met au bénéfice aussi de goûter à quelque chose de plus important qui va au-delà de ce salut. Le salut est cette voie d'entrée pour arriver, l'unique voie d'entrée d'ailleurs, par lui, mais qui nous amène à la réalité à venir, mais qui est déjà présente. Celle de goûter enfin à l'intimité de Dieu. Car son projet pour nous, c'est ça. Adam et Ève, qu'avaient-ils avant de pécher? Qu'est-ce qu'ils ont perdu en premier lieu? L'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, déjà, avant même que le Seigneur ne revienne, Dieu, par l'œuvre de Christ et par la présence de son Esprit Saint, veut nous inviter à vivre dans cette intimité-là, à goûter aux prémices de cette relation qui commence déjà à être restaurée et qui nous permet d'entrer dans la proximité et la connaissance véritable de notre Père et Créateur. Car au jour où toutes choses auront été restaurées, nous serons pleinement, à 100% et peut-être même au-delà, vous pouvez mettre 1000% si vous voulez, hein, dans cette intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu, par son amour, nous invite à nous approcher de lui et à oser le faire. C'est pour cela qu'il est venu nous sauver. Ce n'est pas juste pour mettre un tampon, bon pour être sauvé, chut, allez hop, on passe au suivant, boum, et puis on enchaîne comme ça. Il veut entrer en relation avec nous. Ce qui nous empêchait d'être en relation avec nous, c'était notre péché, mais ce péché ôté, nous pouvons accéder à lui. Nous pouvons enfin le connaître et goûter à cette intimité et savoir ce qu'il veut pour moi aujourd'hui. Savoir comment il me voit aujourd'hui. Car là aussi, il y a source de restauration. Il m'aime. Il ne me voit pas comme ce monde parfois me voit, qui me rabaisse, qui me fait voir comme un être peut-être ingrat ou que je ne sais quoi. C'est ça qu'il nous faut trouver. C'est ça que Dieu veut nous offrir. Et ça commence par l'œuvre du Christ à la croix, mais ça se poursuit et ça va se finir au jour où il sera de retour. Et pour vous apporter une première solution pour se demander mais comment pouvons-nous venir à rentrer un peu plus dans l'intimité de Dieu ? Il y aurait là tout un temps à prendre, mais je vais en abuser si je prends toute chose, et encore, je ne suis pas sûr de pouvoir tout épuiser. Mais prenez quand même une chose qui est importante, peut-être même la manière privilégiée que Dieu nous a donnée pour entrer dans son intimité. Elle nous est accessible à tous. Et je pense que ce ne sont pas mes frères et sœurs des Gédéons qui vont me contredire. D'ailleurs, vous tous aussi. C'est grâce au livre. Bon, au livre, dit comme ça, il y a un L majuscule hein, sur ma petite note. Ou ce qu'on appelle aussi les Écritures, à celle que nous appelons encore la Bible. Car en faisant d'elle un compagnon fidèle et intime, il nous est alors possible de mieux grandir dans sa grâce. Et par sa lecture enthousiaste, elle ne peut que devenir naturellement et concrètement le chemin qui nous amène à vivre dans l'intimité de la pensée de Dieu et de la personne du Christ comme compagnon de vie. Car cette parole-là est pour nous révéler Dieu dans son amour, dans son projet pour nous, notamment dans la personne du Christ, mais dans toutes les personnes de Dieu, et surtout de le faire connaître lui dans tout ce qu'il est, de pouvoir venir à lui. Et tout à l'heure, nous avons eu justement la joie d'être au profit de quelques témoignages, notamment Ernesto, hein, je crois, je dis une bêtise, le prénom de ce frère-là qui est maintenant du côté de Nantes, Ernesto, voilà. Mais ce frère Ernesto, voilà, a goûté, a trouvé Dieu et entré en relation avec lui, au point que voilà, ça a transformé sa vie et qu'aujourd'hui, il le sert. Et très certainement, Ernesto, aujourd'hui, je veux le croire, c'est où Dieu l'invite à être. De temps en temps, certainement, il recherche plus explicitement sa volonté, mais il n'a pas besoin de se poser la question chaque matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Aussi, et je vais finir là-dessus, mes très chers frères et sœurs, Faisons chemin avec lui qui est tout pour nous. N'hésitons pas à lui accorder le temps nécessaire pour vivre cette intimité. Ne soyons plus dans l'attente unique d'une révélation particulière et soudaine, mais recherchons plus encore cette intimité qui nous amènera à saisir sa volonté et pour moi et pour nous aujourd'hui. Ne doutez pas de sa présence. Il prend patience et il désire prendre ce temps avec vous à tout moment. Et il est vraiment l'époux fidèle. Je suis loin de l'être. Hein. Non pas que mon excuse d'être pasteur fait que je ne suis pas très disponible pour mon épouse, mais il est l'époux fidèle au sens où il est toujours là, prêt à nous entendre. Il nous attend pour que nous venions à le rejoindre à tout moment. Et il sait se rendre disponible. Appuyons-nous sur lui et venons, prenons ce temps pour le rejoindre. Et vous verrez à quel point Dieu va vous parler. Et je ne dis pas d'une voix que vous allez entendre, pourquoi pas. Mais simplement, vous le connaîtrez à l'image d'un couple qui se connaît bien et qui sait à tout moment ce qu'il est bon de faire, où nous nous trouvons, comment œuvrer à ceci ensemble. Parce qu'un couple qui se connaît bien, ou même un enfant qui connaît bien ses parents, n'a pas besoin de venir lui demander quoi que ce soit à tout moment. Un simple regard, un simple moment dans la journée nous fait dire « Ah, voilà où j'en suis, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux lui dire quand je le vois ainsi, etc. etc. » Ça, c'est ce qui nous attend. Mais nous pouvons déjà y goûter aujourd'hui, alors ne nous en privons pas. Peut-être inclinons-nous un instant et peut-être tournons-nous vers Dieu, simplement, chacun. Seigneur, nous voulons te glorifier et te louer encore ce matin pour ta fidélité et ta patience envers nous, toi qui désires que nous venions plus encore à ta rencontre. Seigneur, oui, que tu puisses nous bénir par cette relation que tu désires tisser avec chacun d'entre nous, mais que tu désires tisser aussi avec nous en tant que communauté, en tant que peuple. Aussi, Seigneur, montre-nous. Témoigne-nous de ton amour. Fais-nous entendre par ce silence dans nos vies, par ces murmures tels que pour Élie, qui tu es, à quel point tu nous aimes, où est ta volonté pour moi et pour nous chaque jour. Oui, Seigneur, que tu puisses nous encourager à nous approcher de toi jour après jour, à oser te faire confiance, à oser t'accorder ce temps, à oser aussi ouvrir ta parole pour mieux te découvrir et te connaître. Tel que tu es vraiment. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu présent. Tu es ce Dieu, tel que nous l'avons partagé hier soir avec quelques frères et sœurs, qui est à la fois roi et souverain et pourtant qui n'a pas honte de dire de nous que tu es notre frère. Oui, Seigneur, merci à toi parce que tu nous as rejoints et que tu es sans cesse présent pour nous, par ton esprit, afin que nous puissions nous approcher et de notre Père, et de toi, notre Seigneur. Amen.
Amen. Voilà, je vais inviter à nouveau les musiciens à se rapprocher pour les deux derniers chants qui concluront notre culte de ce matin. Et pour ceux qui étaient là mardi, je sais que Jennifer, tu m'as fait la remarque, mais il y avait Thierry Ostrini qui a fait un concert, hein, c'est ça? Pour ceux qui étaient là mardi avec nous, il a entonné ce chant qu'on va aussi nous-mêmes entonner, je vous prie de vous lever. C'est le chant qui s'appelle Emmanuel.
soin d'adoration. Tu es le roi de gloire, notre étoile. Dénais tu le Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières?
Pour l'instant, de vous rasseoir pendant que Emmanuel, tu vas nous parler d'un sujet de prière qui est assez.
Merci Philippe. Je vais inviter deux personnes à me rejoindre. D'une part, Eunice, parce que c'est pour elle que je vais vous inviter dans un instant à être en prière. Et je vais demander à mon très cher frère Freud, alors je ne sais où tu es. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut tout de suite aller chercher Freud? Merci. Vas-y, approche-toi Eunice.
Bonjour tout le monde, je suis Eunice, je suis mexicaine et bon, j'ai resté